noix de Beach.
Sorti en 2002 de l'album À la queue leu leu, c'est avec cette chanson de Judété Examen, Judété Mouloupé, que nous allons accueillir notre expert en gestion forestière, Frédéric Djengo Bosolou. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors, en RDC, plusieurs familles utilisent de la braise pour la cuisson et autres activités. Cette pratique est courante, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les milieux ruraux. Cela implique une coupe de bois rationnelle afin d'éviter le déboisement. À quel rythme doit-on procéder à la coupe du bois et comment fabriquer de la braise? C'est à ces questions que vous devrez répondre aujourd'hui. Mais on va aller déjà par les questions plus simples. Que faut-il réunir en premier lieu pour fabriquer de la braise?
Merci madame, je crois qu'on vient de le dire, la matière première d'abord c'est le bois. Mm-hmm. Et il faut disposer du bois qu'on doit carboniser pour avoir des braises. Donc sans bois, il n'y a pas de charbon de bois.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un type de bois particulier ou bien c'est n'importe quel arbre qu'on peut couper pour faire de la braise?
Okay. C'est spécifique par province, par milieu, mais est-il que... tout bois dense donne du bon charbon de bois. Donc, tout bois dont la densité est supérieure à 0,5 peut donner du bon charbon de bois.
Faut-il un endroit approprié pour le faire ou est-ce qu'on peut le faire même dans sa parcelle?
Non, vous savez que toute activité de carbonisation conduit à la production de la fumée. Mm-hmm. Et la fumée pollue et c'est très dangereux pour la santé humaine. D'où il faut qu'il y ait des endroits appropriés. Il ne faut pas que... Dans les cas de la protection de l'environnement, il faut que la carbonisation soit faite dans un endroit bien indiqué et qui sont éloignés des habitations.
Mmh, à combien de mètres?
Bon, je pense que dire à combien de mètres, il faut peut-être à combien de kilomètres parce que il faut que ça soit, comme je l'ai dit, à des endroits bien indiqués qui sont en dehors dont l'activité, la fumée qui est produite par cette activité-là ne peut pas handicaper les travaux, ne peut pas créer des problèmes des personnes humaines.
Voilà. Alors, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez appeler au 081-890-6394 si vous voulez participer en direct à cette émission. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 081-070-2050. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il y a l'âge de l'arbre? Est-ce que ça compte?
Oui,
l'âge de l'arbre. Est-ce qu'on peut couper un arbre très jeune et puis on fait du bois avec? Ouais, de la braise, pardon.
L'âge compte, d'abord. S'il nous prend sans tenir compte peut-être des propriétés physico-chimiques, mais de la taille aussi de l'arbre. Quand vous avez un arbre d'une année ou de quelques mois, avec une petite taille, vous allez avoir des petites... des charbons de bois de petites grosseurs. Mm-hmm. Alors que quand vous avez des grosses billes ou des bois qui ont un certain volume ou un certain diamètre, vous aurez du bon charbon de bois. Mm-hmm. Mais c'est sûr que nous sommes en train de conseiller de laisser la forêt naturelle tranquille et que les gens commencent à faire du charbon de bois avec des bois de plantation comme les acacias, comme les eucalyptus. Et là, nous conseillons quand même que à partir de 3, 4, 5 ans, qu'on peut couper l'arbre. Et là, la tige a quand même une grosseur de plus ou moins 20 cm de diamètre. Et là, ça facilite aussi la manutention. Mm-hmm. C'est à cet âge-là qu'il vraiment il a indiqué de faire du charbon de bois. Donc, à partir de 3 ans, pour les essences à croissance rapide et pour les autres essences nobles ou des essences forestières, je crois que c'est au-delà même des 10 ans qu'il faut penser à les couper pour la carbonisation.
Alors, quels sont les préalables dans la fabrication de la braise? Est-ce qu'on coupe l'arbre et puis directement on le met au feu? Comment ça se passe?
Bon, si je considère les pratiques de nos paysans ici en RDC, c'est ça qu'ils font souvent. Ils coupent directement l'arbre et puis ils les carbonisent. Et parfois, ça ne donne pas un bon rendement parce que la carbonisation prend beaucoup de temps pour libérer un peu l'eau qui se trouve dans le bois. Mm-hmm. Mais dans des conditions idéales, il faudra que le bois soit au préalable séché, que l'humidité soit peut-être aux alentours de 20% pour que la carbonisation soit un peu plus rapide et que ça donne un bon rendement.
Au capir.
Nous avons déjà un auditeur qui nous appelle de Lubumbashi, il s'appelle Robert. Bonjour Robert.
Bonjour madame.
Oui.
J'aimerais savoir, hein, puisque nous voyons ici à Lubumbashi, il y a l'exploitation et la fabrication des braises. Nous voulons savoir, est-ce que les forestiers prennent aussi une mesure pour éviter la sécheresse, soi-disant de faire encore un reboisement? Alors, nous voulons avoir un peu de précision sur ça.
Merci beaucoup de votre question qui est pertinente. Je crois que depuis des années, le gouvernement, via le ministère de l'Environnement, dispose des brigades de reboisement à Lubumbashi. Mais vous savez que ce sont des espaces qui n'ont pas été respectés par la population. J'ai déjà été à Lubumbashi et aux alentours de l'université de Lubumbashi, il y avait des plantations qui étaient faites et ces bois étaient pour l'ombrage, pour la purification de l'air aussi. Et c'était aussi pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait faire du charbon de bois. Les reboisements, ça c'était pour l'embellissement, mais autour de Lubumbashi, normalement, on doit faire du reboisement. Et comme je disais au cours de l'introduction avec madame, que nous voulons que la population évite la protection, évite la pression sur des forêts naturelles. C'est ainsi que nous conseillons, pas seulement pour Lubumbashi, mais pour l'ensemble des grands centres urbains et de nos villes en RDC, il faudra qu'on fasse quand même des ceintures de plantations énergétiques pour la production de charbon des bois. Donc, ce sont des productions anarchiques, des coupes illicites et anarchiques qui conduisent au changement climatique et que nous déconseillons. Et c'est ainsi que nous voulons, coûte que coûte, réhabiliter ces brigades de reboisement autour de nos centres urbains pour qu'on arrive à produire du charbon de bonne qualité avec des bois de plantation.
Est-ce qu'il y a une politique en RDC qui est justement, parce qu'on sait par exemple que la coupe de bois va continuer à se faire sur pas mal d'années encore, puisque les gens en ont besoin pour se nourrir. Est-ce qu'il n'y a pas un projet justement pour essayer de répondre à ce besoin-là, par exemple planter des espèces qui sont destinées justement à la fabrication de la braise?
Ouais, c'est un souci du gouvernement via le ministère de l'Environnement et comme je l'ai dit, ces soucis datent de plus de deux décennies. Et c'est ce qui a conduit, par exemple, à un projet d'agroforesterie. On a installé des paysans, plus ou moins 300 paysans, à plus ou moins 170 km d'ici, au plateau de Bateke. Je crois que vous avez déjà entendu parler du projet Mampou. Et ce sont des Mampou qu'on voudrait peut-être, avec le temps, créer ou installer partout. Mm-hmm. Parce que c'est un bon exemple. Nous voudrions, comme j'ai dit à notre ami de Lubumbashi, nous voudrions que, considérant que autour de nos villes, si vous y passez maintenant, vous trouverez que tout autour de nos villes, il n'y a plus de forêt. Mm-hmm. Et la politique, c'est quoi? Il faudra que des ceintures de reboisement avec des essences à croissance rapide soient faites autour de ces villes, autour de ces grands centres urbains, parce que jusque-là, les bois... Les bois et les charbons de bois restent un besoin fondamental. Et comme vous l'aviez dit, plus de 81% de la population en RDC n'ont que ça comme source d'énergie domestique. Mmh. Donc la politique, c'est d'arriver à faire des grands espaces de plantation énergétique et aussi, et peut-être qu'on va en parler aussi, disposer des techniques améliorées de carbonisation pour une utilisation rationnelle de ce bois.
Et on va en parler tout à l'heure. Nous allons prendre d'abord Kachala qui nous appelle depuis Likasi. Bonjour Kachala.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bon, ça veut dire, il y a une usine là, sur la Haute-Cambo qui utilise un peu le charbon de bois en grande quantité. Je veux savoir si cela ne touche pas au déboisement. Parce qu'ils ne sont pas inquiétés, hein. Eh ouais.
Ah oh, ouais. Je crois que l'utilisation excessive ou croissante du charbon de bois entraîne obligatoirement la destruction de forêts parce que c'est la matière première qui est utilisée. Mais je ne sais pas si ces fabricants de charbon de bois utilisent, tirent leur bois de quelle forêt ou des cœurs sources. Je crois que si c'est des forêts naturelles, et surtout considérant que les forêts de Lubumbashi sont des forêts claires, qui sont très sensibles au déboisement, moi, je crois que la question doit être posée au niveau de nos coordinations des districts, nos coordinations de provinciales de l'environnement, pour qu'on essaie de voir et de faire un suivi par rapport à ça. Est-ce que ces bois proviennent des déchets, des défrichages agricoles? Ce sont du bois qu'on coupe directement pour faire du charbon des bois. Et je pense que cette question-là est vraiment à suivre. Parce que tout déboisement excessif conduit au changement climatique, et comme Lubumbashi aussi. Et à la frontière des zones qui sont très sensibles, on risque, avec le temps, de connaître peut-être la désertification. Mmh. Et ce n'est pas bon. Et nous allons nous y pencher et essayer d'entrer en contact avec nos représentants en province pour qu'on suive ces cas-là.
Justement, vous avez parlé des activités de Mampou. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vous organisez justement pour freiner ce phénomène-là?
Bon, les constats étaient faits à partir des années 75-76. On a trouvé que Kinshasa avait des problèmes de bois et de charbon de bois, mm-hmm. et que la forêt autour de la ville ne faisait que disparaître. C'est ainsi que vers ces années-là, on a essayé de faire des essais de plantations avec des essences à croissance rapide et dont l'objectif était d'alimenter la ville de Kinshasa en charbon de bois. Mm-hmm. Et voilà que c'est ce projet qui a commencé d'abord au centre forestier de Kinzono, où il y a eu beaucoup de recherches. On a introduit beaucoup d'essences exotiques et a fait que cette essence-là, l'acacia, soit retenue compte tenu de son charbon de bonne qualité, sa sylviculture aussi qui est simple. Et le ministère a fait un appel d'offres. Il y a un projet HVA hollandaise une société hollandaise qui a gagné les marchés, qui a planté plus ou moins 6 000 hectares de bois.
Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui, c'est déjà une forêt. Et je voulais terminer pour dire que quand le projet a fini, il y a la Fondation Antidéor 6 qui s'est impliquée pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait assurer l'entretien de cette forêt-là. Et comme option, on a voulu installer les paysans. Mm-hmm. Installer des paysans agroforestiers dans des superficies, donc dans des parcelles de plus ou moins 25 hectares, pour qu'il fasse de l'agroforesterie. Dit que cette forêt-là, aujourd'hui, contribue d'abord à alimenter la ville de Kinshasa en produits vivriers, manioc, maïs surtout, et en charbon de bois. Et chaque fermier coupe plus ou moins 1,5 hectare par an, et qui peut peut-être fournir plus ou moins 600 sacs de charbon. Mm-hmm.
Vous avez parlé de croissance rapide, c'est à peu près combien de temps? Ça veut dire quoi?
Ouais, croissance rapide, c'est dire combien de temps? Comme je disais déjà, dans plus ou moins 3 ans, donc 3-5 ans, on pouvait
commencer à couper.
Mais la coupe a commencé d'abord au-delà des 5 ans, parce que c'était d'abord une forêt il fallait d'abord attendre ce projet-là. Et quand on a pensé à installer les paysans agroforestiers, les plantations avaient déjà dépassé 5 ans. Donc mm-hmm. aujourd'hui, ce sont des plantations plus d'une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, on a ajouté encore 1500 hectares, et ce qui fait peut-être une superficie totale de plus ou moins 8000 hectares aujourd'hui.
Est-ce que ça a augmenté la production de la braise dans cette partie du pays?
Oui, ça a augmenté la production de la braise, et aussi ça contribue jusque-là plus ou moins 2 à 3% des quantités de charbon qui sont fournies à Kinshasa.
Nous allons prendre Gondele, il nous appelle depuis Isiro, c'est en province orientale.
Oui, alors, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour Radio Okapi, pour l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Ma préoccupation à l'égard de l'invité est la suivante. À l'époque, je crois que ce n'est pas encore lettre morte, même si on avait des arbres dans sa propre parcelle, et que nous savons du moins la fonction ou du moins l'utilité des arbres à feuilles vertes dans la photosynthèse. avant de découper ou de couper un arbre, dans, même dans sa parcelle, bon, il y avait peut-être à se plaindre auprès de l'environnement. Bon, cela, c'était pour protéger un peu la nature. Quelle est la contribution de notre invité en tant que médecin de l'environnement pour essayer peut-être de réveiller le pouvoir public dans ces coupes abusives des arbres dans des parcelles, parce que nous savons que ça a une grande utilité, protéger la toiture contre les vents, nous donner de l'oxygène et beaucoup d'autres utilités. Parce que maintenant, les gens coupent abusivement et le pouvoir public reste indifférent. Quelle serait la contribution de notre invité là-dessus? Je vous remercie.
Frédéric Ndjengo, expert en gestion forestière, vous avez la parole.
Ah, merci beaucoup. Je crois que la loi n'a pas changé. Mais je crois que c'est le problème d'individu. Ici, nous, à Kinshasa, ici, par exemple, cette loi existe et on doit la respecter. Nous avons des coordinateurs de districts ici chez nous, à Kinshasa, nous en avons quatre. Mm-hmm. Et tous les bois qui doivent être coupés, même sur le boulevard ou même dans des parcelles ici à Kinshasa, si on les coupe sans autorisation de l'État, c'est une infraction.
Donc avant de couper un arbre, il faut aller d'abord...
Il faut avoir l'autorisation...
La commune la commune.
Oui, de la commune ou de l'administration la plus proche. Et je crois qu'il faut que ça soit motivé aussi. Mm-hmm. Il faut que ces bois, avant d'être coupés, il faut que ça représente peut-être un danger. Et on voit les arbres qui ont vieilli, qui peut-être représentent un danger... pendant la saison des pluies. Et là, au préalable, il faut expliquer. On ne peut pas couper l'arbre sans motivation, sans autorisation. Mm-hmm. Et moi, je vous exhorte à rester quand même vigilant, mm-hmm. vigilant et de porter quand même plainte ou d'essayer de traduire en justice auprès des responsables, des gens qui se... donne à des destructions abusives des arbres qui sont aussi des êtres vivants.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Nous avons dans ce studio Frédéric Ndjengo Bosolu, qui est expert en gestion forestière, et nous parlons de la fabrication de la braise, mais également des fréquences que l'on doit respecter pour faire la coupe du bois. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose. Vous avez parlé de la carbonisation améliorée, mais avant ça, vous aviez parlé du séchage du bois. Il faut bien sécher le bois avant de le carboniser, et ça, c'est pour de meilleurs résultats. Combien de temps est-ce que ça prend, par exemple, le séchage?
Ok, ça dépend des essences. J'ai parlé aussi du problème de densité et ça dépend aussi des régions. Il y a des régions où il fait chaud, mm-hmm. Où le bois peut sécher. On peut laisser le bois pendant 2 semaines, 3 semaines. Et il atteint l'humidité requise pour la carbonisation. Et il y a aussi d'autres où ça peut faire 1 mois. Donc ça dépend des régions. Et aussi de la qualité des bois, surtout la densité. Les bois qui est trop dense sèche lentement, mm-hmm. alors que celui qui est léger sèche rapidement. Même, je crois que pour peut-être une durée de plus ou moins 1 mois en général, pendant la saison sèche, ça peut être bon pour la... comme dirait, avant de faire la carbonisation. Mmh.
Maintenant, on va en venir à votre projet de carbonisation améliorée. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement?
Bon, quand on parle de carbonisation améliorée, c'est qu'on utilise des techniques qui sont un peu plus performantes. Et on a amélioré par rapport à des techniques traditionnelles que, nos ancêtres utilisaient ou qu'on utilise traditionnellement.
Vous avez des exemples de ces améliorations-là, par exemple? Parce qu'il y a des paysans, j'aurais même voulu que vous le fassiez, par exemple, en une langue nationale, en lingala. Comme ça, ils vont saisir ces nouvelles orientations.
Je voudrais seulement dire que d'emblée, que toutes les techniques de carbonisation se valent. Toutes les techniques se valent et ça dépend aussi de l'expérience de l'opérateur. Mm-hmm. Mais n'empêche qu'il soit mis en œuvre quelques techniques qui ont été expérimentées par-ci, par-là. Et en ce qui concerne la RDC, à part notre mère traditionnelle dont nos études ici ont estimé le rendement à plus ou moins 10%, 10 à 15%. Et nous avions pu introduire avec la coopération canadienne ici en RDC quelques techniques améliorées, et en commençant d'abord par les faux canadiens. Mm-hmm. Et comme c'était un projet canadien et qui était installé ici pour essayer de récupérer, valoriser les déchets d'exploitation forestière, surtout au niveau des scieries, il y avait les fours canadiens en riche d'abeilles, un grand four qui vous prend plus ou moins 20 mètres cubes de déchets et qui produit plus ou moins 100 sacs de charbon de 30-40 kilos après 10 jours. Mm-hmm. Et cette technique-là avait un rendement qui est aussi entre 20 et 25% par rapport à la mère traditionnelle. Aussi, considérant que ces fours-là avaient un coût de construction très élevé qui est estimé jusqu'à plus ou moins 5 000 $. Mm-hmm. Ce projet-là, CATEB, de coopération canadienne avec le ministère de l'Environnement, avait aussi en son temps, vers les années 80, vers les années 87-88, transféré quelques techniques de carbonisation qu'on a dit Brésil. Mm-hmm. Il y a un petit four brésilien en brique cuite qui peut prendre plus ou moins 7 à 8 terres de bois et qui produit une dizaine de sacs toutes chaque semaine. Mm-hmm. Et à part ça, il y a aussi un grand four qu'on appelle Morado au niveau du Brésil, qui est comme les fours canadiens en riche d'abeilles. Mais l'avantage avec ces fours brésiliens, c'est qu'ils sont construits uniquement en argile. Mm-hmm. Contrairement au four canadien qui est construit à l'aide des chaux et du ciment. Et voilà cette gamme-là aussi. On s'est dit, il y a des provinces, il y a des régions, il n'y a pas de l'argile pour fabriquer des briques. Mm-hmm. Et ce projet CATEB, à son temps, qui était devenu même une direction par la suite, a pensé aux gens petits,
oui,
en transférant aussi du Sénégal via le Rwanda, Burundi, une mêle qu'on appelle mêle casamanceaise, qui est exprimée à Casamance au Sénégal.
Oui.
Donc, c'est une mêle aussi sous forme de parapluie et où on ajoute une cheminée pour accélérer un peu la carbonisation, les tirages. Et ce four-là a un rendement comme le four canadien, comme le four, mm-hmm, brésilien. Voilà, on a essayé d'introduire entre les années 85-90, toute une gamme de techniques de carbonisation.
Mmh. Monsieur Frédéric Diego, vous êtes expert en gestion forestière. On nous suit à travers toutes les provinces de la RDC. Mmh. Alors, pour ceux qui voudraient, par exemple, bénéficier de ces fours canadiens, brésiliens ou la meule casamanceuse, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À quel service est-ce qu'ils peuvent s'adresser?
Pour
ceux qui fabriquent de la braise.
Ils doivent s'adresser au ministère de l'Environnement, mmh, à la direction de la gestion forestière. Parce que aujourd'hui, la direction du Canada, donc le centre d'adaptation technique de l'énergie bois, fait partie intégrante de la direction de gestion forestière.
Oui.
Et nous avons des experts qui peuvent leur montrer comment utiliser ces techniques améliorées de carbonisation.
Voilà, c'est par là qu'on va conclure cet entretien. En tout cas, j'espère que tous les producteurs de braise, hein, en RDC ont noté cette adresse-là à laquelle ils pourront s'adresser. Merci à vous, Frédéric Diengo Bosoulou. Vous êtes expert en gestion forestière. Et à la prochaine.
Merci.